sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. On est à Sans détour du 5 juin. On est à l'antenne de Canal M. L'émission Sans détour aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais on va parler évidemment beaucoup de piétons. On revient là-dessus dans un instant. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec M. André Prévost, directeur général de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN, qui va remettre très bientôt sa première édition de prix Papillon. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Mme Laurence Parent de la Ville de Montréal, l'administration vient tout juste de déposer les recommandations suite à la grande consultation publique de ce printemps sur l'accessibilité et la vie piétonne et dans les rues de Montréal, si je peux dire. À ce sujet, nous aurons également les échos de Mme Degani de Piéton Québec et on fera le tour de la question avec notre collègue Esther Hardy. Esther restera également à 13h pour la revue de presse. Mais avant tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir M. Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique. Et ensemble, on va parler de toutes sortes de découvertes qui sont presque chez nous. Bonjour Philippe, comment ça va?
Bonjour François, ça va très bien, puis toi?
Ça va bien, je reviens de longues vacances et puis faut que je retrouve mes repères un peu là, mais on va y arriver. Les vacances, ça fait toujours du bien, puis quand on vient, ben, on est heureux de se remettre au boulot et de reprendre le collier, comme on dit. Aujourd'hui, on parle de jeux. Alors c'est amusant.
Ben oui. T'es de retour de vacances, donc comme tu dis, reprendre les repères, ben je trouve que ça tombe tellement bien pour notre premier sujet où on va parler de jeux, mais de représentation spatiale.
Oh.
Puis je propose de commencer par un peu définir là, qu'est-ce qu'on entend par ça ici. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la capacité à se représenter à notre relation à l'environnement, finalement. Comment on s'y dirige, comment on se déplace dans l'environnement qui nous entoure. Et surtout, bien, de s'ajuster, évidemment, avec les imprévus, les conditions qui changent.
Oui, parce que à partir du moment qu'on se déplace dans l'espace, bien, c'est un peu comme si nous, on ne bougeait pas et que le décor bougeait, là, ou vice-versa.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Puis évidemment, pour faire ça, ben on se sert de nos sens, hein, le l'ouïe, le toucher, l'odorat, mais un des sens les plus importants dans ça, c'est celui de la vue,
exact.
La vision qui nous permet de se renseigner sur l'environnement qui nous entoure.
Or, quand nous n'avons pas la vue, qu'est-ce qu'on fait?
Oui. Ah, c'est ça, c'est justement, prenons l'exemple des gens qui ont des déficiences visuelles, ben c'est pas évident, hein. Puis eux autres, ben ils vont souvent mettre en place une stratégie qui est la mémorisation, par exemple, des trajets. Apprendre par cœur, de se déplacer d'un point A au point B. Donc, c'est bien correct, mais évidemment, ça vient avec un petit inconvénient, c'est celui de ne pas suffisamment exploiter le développement des capacités de représentation spatiale. Donc,
Ça se peut aussi que, notre trajet habituel ne soit pas le même parce qu'il y a un chantier, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas ça. La routine habituelle. Puis deux, ben, à partir du moment que on veut explorer puis découvrir de nouveaux endroits, il y a toute la question de réapprendre de nouveaux trajets.
C'est exactement ça. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que des chercheurs français, des chercheurs de l'Institut des jeunes aveugles, c'est situé à Toulouse, en France, eux autres, ces gens-là se spécialisent dans la conception d'outils ludiques pour permettre aux jeunes personnes, aux personnes, en fait, de développer justement un peu mieux cette capacité-là de représentation spatiale.
Donc, c'est en jouant qu'on développe nos facultés de perception.
Absolument. Et je vous présente donc trois éléments qu'ils ont mis en place, en commençant d'abord par une petite maquette qu'on appelle la Tangible Box.
Oui, ben c'est sur la Tangible Box. Oui, voilà.
Oui, c'est ça, oui, à la française. C'est ça. Essentiellement, un plateau sur lequel on a un labyrinthe. Un labyrinthe qui peut être construit simplement avec des petits blocs de construction, des blocs de type Lego. Et on a un labyrinthe, on a un petit pion, La personne malvoyante, la jeune personne, doit apprendre à déplacer le pion, mais pour ce faire, elle va se servir, par exemple, la plateforme va émettre certains sons à certains moments, des sons qu'on peut entendre dans la vie quotidienne de tous les jours. Ça peut sembler banal, mais tout ça, c'est dans l'objectif de justement permettre à l'enfant de développer cette capacité-là à se représenter dans l'espace. Parce que si tu me le permets, je vais juste introduire une petite parenthèse en disant que pour les personnes bienvoyantes, je commencerai plutôt par les personnes malvoyantes, la perception est souvent, l'environnement est souvent de type égocentré. Ça veut dire que la personne, si je reprends l'exemple de la boîte, le tangible box, la personne se voit comme le petit pion dans le labyrinthe. Et ça semble banal, mais c'est très différent de la perception qu'ont les personnes voyantes.
Oui, je comprends, parce que la perception va être un peu comme des cercles concentriques. Il va y avoir qu'est-ce qu'on peut toucher si on tend les bras autour de nous. Oui. Qu'est-ce qu'on va toucher si on utilise notre canne puis on ajoute un 3-4 pieds? Qu'est-ce qu'on va toucher si on fait deux pas devant ou deux pas derrière ou ainsi de suite?
Oui. Donc, les personnes voyantes vont davantage avoir une vision, une perception de l'environnement de manière comme à vol d'oiseau, comme si on survolait
Plan. Oui.
Exactement. Donc, le but de la Tangible Box, c'est un peu d'amener les personnes à développer une capacité à se représenter l'environnement, un peu comme à vol d'oiseau, d'une certaine façon.
D'accord.
Okay. Alors, deuxième élément, deuxième possibilité, un jeu de société, tout simplement, qu'on appelle Rituel sur le fleuve. Un plateau de jeu sur lequel on doit déplacer un petit bateau le long d'un cours d'eau. Et ce plateau-là est connecté à un ordinateur. Et évidemment, tout au long de la partie, l'ordinateur va peut-être produire des sons, va peut-être questionner les participants ou leur proposer une énigme.
Ou les challenger avec un obstacle.
Absolument. Ouais,
voilà. Mais quand c'est un jeu avec un ordinateur, puis on veut faire embarquer les enfants dans le truc, c'est magique.
Oui.
Hein, voilà.
Exact. Puis l'avantage de ça, c'est qu'on stimule les représentations spatiales plutôt que d'y aller seulement par la mémorisation. Hein.
Oui.
On ne peut pas le faire, là, le jeu change tout le temps.
Oui. Oui, parce que le premier, c'était quand même une maquette, donc on pouvait éventuellement mémoriser tous les raccoins. Sur un ordi, on peut imaginer que l'environnement peut tout le temps changer, oui.
Exactement. Puis un dernier petit élément qu'ils ont mis au point, c'est une tablette tactile. Donc, quelque chose qui ressemble un peu à un iPad, un peu plus gros quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est la tablette produit des dessins en relief. Comme, par exemple, on pourrait avoir une carte du monde où les continents sont légèrement surélevés par rapport aux océans. Évidemment, on est dans le toucher ici. Les jeunes apprenants vont apprendre à explorer l'environnement, mais avec le sens du toucher. Donc, c'est encore une fois une manière d'amener à développer un sens de la représentation spatiale différemment de ce qu'ils vont peut-être naturellement avoir tendance à faire, c'est-à-dire y aller par mémorisation.
Alors ça, ce sont tous des jeux, des choses qui ont été... créé en France à l'Institut des jeunes aveugles. Alors, peut-être que ça va traverser l'Atlantique et qu'on va y avoir droit sous l'arbre de Noël.
Pourquoi pas? C'est bien. Donc, ça clôt ce sujet-là, en fait.
Les jeunes, puis là, le prochain sujet, moi, ça me touche un peu parce que je connais une jeune fille qui, au moment de sa croissance, quand elle avait 7-8 ans, elle avait des problèmes de dos sérieux. Mm-hmm, elle était obligée de porter un corset et c'était pas de la tarte.
Non, exactement, c'est ça. Donc, on est dans un sujet qui parle ici de la scoliose, comme tu l'as un peu bien introduit, c'est-à-dire une personne qui présente une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Là, on a à peu près tous vu ça, une image radiographie où on voit la colonne un peu en forme de S étirée.
En tire-bouchon, ainsi de suite. Parce que la déformation n'est pas que gauche-droite, elle peut faire comme
absolument.
Ça revient vers l'intérieur ou ainsi de suite.
C'est ça. Elle se déforme en trois dimensions, comme tu le mentionnes. Ça touche beaucoup les adolescents, plus les adolescentes que les adolescents. Il y a plusieurs causes possibles, génétiques, neurologiques, posturales même. Mais dans bien des cas, on parle de scoliose idiopathique. Donc, c'est une scoliose pour laquelle on n'a pas vraiment identifié la cause qui mène à ça.
Mais il n'en demeure pas moins qu'elle est bien réelle.
Absolument. Mm-hmm. Tu l'as bien mentionné, là, ce qui peut arriver dans bien des cas, c'est que la personne devra porter un corset, qui est une espèce de, on va dire...
Un carcan, un corset, c'est un corset. Hein? On se met ça autour de la taille pour obliger de faire une... de se tenir droit,
stopper la progression, tout ça, bien, ça demeure que c'est un objet qui est plutôt inconfortable, peut-être pas super esthétique également.
Non plus, puis au moment de l'adolescence, on peut penser que c'est pas non plus un gros succès, là. Il faut porter ça 20-23 heures par jour. Alors,
exactement,
à part de prendre sa douche, on est pris avec.
On est pas mal pris avec ça. Fait que souvent, ça décourage les personnes de le porter.
Oui, oui.
Puis le taux de succès n'est pas toujours au rendez-vous. Ça nous appelle à parler d'une innovation fort intéressante d'un jeune chercheur québécois là, sorti du génie mécanique. Il s'appelle Aymeric Guy, un jeune homme fort sympathique d'ailleurs, qui lui s'est dit, tiens, on va essayer de revoir un peu la méthode de fabrication des corsets. On va essayer de faire quelque chose de différent cette fois-ci. Il faut bien mentionner que ce qu'il amène comme innovation, c'est le fruit de plusieurs travaux de recherche, plusieurs années de recherche avec des chercheurs de Polytechnique, des chercheurs de Sainte-Justine également. Et essentiellement, donc, on a revu la méthode de fabrication ici du corset. Je la décris rapidement en disant qu'on part de radiographie. Avec ça, on est capable, du patient, on produit un jumeau digital tout à fait identique au patient.
Bon,
ça,
d'accord.
C'est très intéressant.
On fait un modèle tridimensionnel
exactement.
Virtuel. Oui.
Exact. Puis ensuite, on teste plein de possibilités de corset, là, toujours en mode virtuel. On essaie de trouver le corset le mieux ajusté possible au corps du patient.
Oui, parce qu'il existe chaque corps est différent, puis en même temps, il existe une certaine gamme de corsets.
C'est ça. Mm-hmm. Fait que, le logiciel nous permet d'identifier le corset le plus optimal qu'on va par la suite pouvoir imprimer en 3D. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y ajoute, tant qu'il y a, des capteurs de pression. Ça, là, c'est expressément fait pour bien suivre l'évolution de la scoliose une fois que la personne le porte. Là, on est vraiment dans du monitoring à point par point, là, en tout moment.
Tout à fait, oui. Puis surtout qu'on peut penser qu'au fur et à mesure de la correction de la scoliose au fil du temps, il va peut-être falloir changer le corset puis qu'il ne soit plus exactement le même parce que la posture, on l'espère, va changer.
Oui, absolument. Et puis, ce que le chercheur espère éventuellement développer avec ça, c'est une petite application qu'on peut mettre sur le téléphone dans le but de faire en sorte que le patient puisse le stimuler, lui donner des défis, un peu des objectifs à atteindre pour le motiver à porter le corset. Il faut dire que le corset est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus agréable à porter également.
Bien, ça va éviter la tricherie aussi, ça c'est bien.
Oui.
Parce que l'adhésion au plan de traitement, c'est important.
Si
on ne le fait pas, ça ne marche pas, mais on peut comprendre que ça rebute...
Exactement. C'est québécois, puis ça a plein, un bel avenir prometteur, ce type de nouveau corset, la nouvelle génération.
C'est bien, ça. Aymeric Guy qui nous a...
Oui, un nom à retenir.
Voilà. À retenir aussi, on parle souvent dans avec la génétique, il y a eu beaucoup de progrès dans les 5-8 dernières années. Puis les troubles du spectre de l'autisme... Longtemps, on n'y voyait pas une cause génétique, mais ça, maintenant, ça a été plutôt cerné. Là. Il semblerait qu'il y ait une part importante de génétique dans l'apparition de troubles du spectre de l'autisme. Et là, maintenant, non seulement on a cerné ça, mais ça vient du père.
Absolument, c'est ça. Donc, c'est une recherche très, très récente par des chercheurs américains qui ont analysé le génome de plusieurs familles, des milliers de familles, puis ils en sont venus à la conclusion suivante. La transmission génétique du trouble du spectre de l'autisme est davantage causée par le père que par la mère.
D'accord.
Mais il y a un bémol très important à retenir, puis ça, je vais absolument le mentionner, c'est qu'on est dans c'est lorsqu'il y a au moins deux enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme. Autrement dit, si on a seulement un des enfants dans la fratrie qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme, on observe moins cette corrélation.
Parce que ça peut aussi être une mutation génétique qui a lieu au moment de la conception. Donc, ce n'est pas nécessairement une transmission héréditaire. L'apparition de troubles du spectre de l'autisme peut survenir à la suite de mutations génétiques immédiates et isolées dans ce sens-là. Donc, parce que les maladies dites héréditaires, parfois ne le sont pas.
c'est ça, exactement. C'est sûr que là, c'est tout un sujet en soi. Mais ici, c'est comme une première fois qu'on observe une certaine corrélation qu'il y aurait entre le génome du père et la transmission génétique de ce trouble-là chez l'enfant. Donc, ça, C'est nouveau, puis là, on essaie d'explorer. On ne connaît pas la cause. On est vraiment dans les hypothèses. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi c'est comme ci, comme cela? Fait que c'est intéressant de voir que, bon, ben peut-être que c'est la faute à papa si on a le TSA.
Ouais, mais... ça... ben là, ça... Faut pas pointer du doigt, mais pendant très longtemps, tendance à pointer les mères pour toutes sortes de choses. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai lu quelque chose en week-end, comme quoi une partie, la transmission du gène défectueux BRCA1, qui est le gène défectueux qui est souvent relié au cancer du sein, vient plus souvent du côté paternel que maternel. Là aussi, souvent, il y avait des patientes qui étaient traitées pour des cancers du sein, puis ils avaient, dont la mère avait peut-être eu le cancer du sein ou la grand-mère, mais en fait, on s'aperçoit que c'est par la filiation paternelle que ça, que ça découle.
Un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça.
Ben oui, en effet, c'est un petit peu comme ça, on peut le dire. Ben voilà qui fait le tour. Merci, Philippe. On va, je l'espère, se reparler en septembre.
Ah, avec grand plaisir, cher François. Et ça va me faire plaisir de revenir avec de nouveau.
Voilà, tout à fait, parce que l'actualité scientifique, là, ça déboule tout le temps. Puis c'est porteur d'espoir de savoir que souvent des choses qui nous semblent insolubles aujourd'hui là, trouveront éventuellement une correction, un ajustement, ou parfois c'est une grande découverte là, qui change tout. Ben merci.
Ben voilà, ça me fait plaisir.
Bon été.
Pareillement à toi, François.
Ramsey Lewis Trio. You just don't care. Voilà, c'est tiré de l'album Never on Sunday, jamais le dimanche. Si vous cherchez du jazz qui rend heureux ou qui fait sourire un petit peu, Ramsey Lewis, là, c'est la bonne adresse. Voilà. Cela dit, nous sommes heureux d'accueillir M. André Prévost. Bonjour, M. Prévost.
Bonjour, M. Beauregard.
Vous êtes directeur général de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, que tout le monde appelle la COFAN. Non?
Hein? Exact.
Exact. C'est l'acronyme. Exactement, ça se dit bien. Et puis, vous allez avoir une grande soirée très bientôt.
Oui, tout à fait.
Avec la remise des prix Papillon, puis ça va être la première édition. Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce qui vous a motivé à créer ces reconnaissances-là?
Bon, écoutez, la COFAN, nous, on est d'abord un organisme là, de défense de droits collectifs qui vise l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, c'est sûr que pour réaliser ce travail-là, ça nous amène à faire des travaux d'analyse et de communication. Puis bien souvent, bon, on fait des revendications, on fait des demandes. Et parfois même, on va critiquer le gouvernement. Donc, question d'être positif. On a pensé y aller pour mettre en valeur et primer, dans le fond, des initiatives positives qui, en bout de ligne, contribue à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, puis l'effet de papillon, ben, c'est un peu l'idée que c'est une initiative, par exemple, qui se déroule dans le coin de Drummondville, ben, si c'est bon pour Drummondville, ben, ça se peut qu'un peu par un battement d'aile,
oui,
on a des effets positifs ailleurs.
Oui, d'accord. C'est comme on dit que le battement d'aile du papillon sous les tropiques, oui, influence la météo ailleurs, je comprends. Oui, tout à fait.
Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a mis en place les prix papillons. Puis, les prix papillons, ben, dans le fond, on va les remettre pour chacune des catégories là,
oui,
sur lesquelles la COFAN travaille avec ses comités.
Il y a cinq catégories d'action qui reflètent votre action, qui vont être chacun de ces axes-là va avoir son prix, si on peut dire.
Tout à fait, sauf pour un des axes là, où il y aura deux prix. Donc, on a cinq domaines, six prix. Je peux les nommer, si
oui,
vous voulez.
Oui, tout à fait.
D'abord, il y a l'axe transport. Inutile de parler de l'importance du transport pour les personnes en situation de handicap. Sans transport, difficile d'aller aux rendez-vous médicaux, l'emploi, l'éducation, etc. En emploi, revenus et logement, donc on aura deux prix. Il y en aura un pour le volet revenu, un autre pour le volet logement.
Oui.
Et après ça, on a tout le domaine de l'éducation, où on va remettre un prix également.
L'éducation, ça peut être à la fois l'accès à des institutions de savoir là, pour poursuivre des études,
oui,
mais ça peut aussi vouloir dire l'éducation du grand public par une façon de disséminer l'information au sujet de la réalité des personnes en situation de handicap.
Oui, c'est au sens très, très large. Là, d'ailleurs, on peut comme le, je ne veux pas... Je veux pas
non, ne vendez pas la mèche! Il ne faut pas faire ça, là!
Quelque part, on va primer des modèles d'inclusion.
D'accord.
Donc, la catégorie suivante, sans surprise, c'est la santé et les services sociaux.
Oui.
Alors, toute la question de l'accessibilité fera aussi l'objet de la remise d'un prix.
Alors, chacune de ces catégories-là, et qui est-ce qui va recevoir? Est-ce que, parce que là, maintenant, la mise en candidature, ça s'est terminé, je pense, le 19
oui,
mai.
Oui.
Le jury s'est réuni ou va se réunir. Qui compose le jury? Qui on retrouve autour de la table?
Bon, en fait, vous avez la permanence là, de la COFAN, avec aussi on a invité chacun des présidents des comités, parce que dans chacun des thèmes que j'ai nommés, on a un comité,
d'accord,
avec des membres, puis parfois de partenaires externes. Donc, les présidents étaient invités au comité de sélection. Ça a quand même été très bien. Aussi, j'oublie évidemment nos commanditaires. Amitélé était invité, les coops de l'information également. Donc, puis au PHQ était invité, mais n'était pas en mesure d'y participer. Donc, c'était quand même une belle brochette. Puis, on a eu quelques difficultés, mais pas beaucoup. Mais on est content. On a eu des initiatives dans chacune des catégories.
D'accord. Et est-ce qu'il s'agit d'individus? Ou est-ce que c'était ouvert à des individus et à des organismes? Ou quand vous avez créé le prix, vous avez plus visé des organismes?
Ouais, bon, on dit, nous, en fait, on dit que je peux être à la fois un membre ou un non-membre de la COFAN. Donc, il n'y a pas de... C'est pas très sélectif, là. Par contre, il fallait que l'initiative soit en place là, depuis un certain temps pour que ce soit un projet nouveau. Parce qu'un projet nouveau, évidemment, on dirait aux promoteurs de revenir avec une proposition.
Oui, exact. Oui. Une fois qu'on aura fait nos preuves, ben là, on peut récompenser.
Ben, c'est ça. Puis là, ben, écoutez, non, on est content de la façon dont ça s'est présenté. Puis d'ailleurs, dès le soir même, le lendemain, là, la remise des prix avec nos partenaires, il va en être question dans les médias. Puis on va y mettre également un communiqué, puis sur les médias sociaux. Donc, ceux qui remporteront les prix, évidemment, puis les prix, écoutez, il n'y a pas des millions en jeu. Là, on va remettre une plaque honorifique, mais une belle plaque quand même. Là. Puis avec la remise, les remises qui vont être faites là, avec des personnalités, je dirais, là, du domaine.
C'est bien.
Alors, ça va être intéressant. Puis ça, on pense qu'avec le temps, ça va créer un effet de boule de neige même pour l'an prochain. Alors, on commence modestement.
C'est la répétition qui va créer la tradition. Hein? Les gens vont reconnaître la valeur du prix à chaque année, puis peut-être le nombre de candidatures va augmenter, et ainsi de suite. Le prix cette année est remis, vous me dites, le vendredi 16 juin?
Oui, 16 juin, oui. Ça commence à 18 heures. Puis, écoutez, on a quand même des représentants là, qui vont être issus de ministères et organismes là, du gouvernement du Québec, ainsi que du gouvernement fédéral. On aura quelques représentants, y compris Normes et Accessibilité Canada. Donc, ça s'annonce très positif. On a aussi une jeune chanteuse en situation de handicap qui va venir présenter quelques chansons.
Tout ça, c'est dans le cadre, si je peux me permettre, M. Prévost, parce que le temps file puis je veux que les gens puissent y participer. Ça, c'est dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de la COFAN qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal. Hein, ça, c'est
exact,
métro
exact,
Place d'Armes. Ça, c'est vendredi le 16 juin.
Oui, peut-être juste nuancer que l'Assemblée générale annuelle, elle est à 13 heures.
Oui.
Ensuite, on va accueillir les partenaires dès 17 heures dans le cadre d'un cocktail. Le gala comme tel commence à 18 heures.
18 heures. Ben, c'est bien parfait. On va être là certainement. Merci beaucoup, M. Prévost, de nous en avoir parlé. Bonne chance à tout le monde et on a hâte de connaître le nom des gagnants. Gagnantes.
Tout à fait. Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Ce printemps, la Ville de Montréal a lancé une grande consultation publique par le biais de la Commission sur le transport et les travaux publics, une consultation sur la traversée des rues, les mesures d'accessibilité universelle, la mobilité active. C'est un dossier que notre collègue Esther Hardy avait suivi de très près dès le début du mois de mars, dès le début du processus. Et le 10 mai dernier, la Ville de Montréal a déposé les recommandations issues de cette consultation-là. Et pour nous en parler, qui de mieux qu'Esther elle-même, pour nous en parler, nous aurons plus tard, au cours de la prochaine demi-heure, Mme Parent de la Ville de Montréal et Mme Degany de Piéton Québec. Mais commençons d'abord par dresser la table.
Oui, un genre de bilan, hein,
voilà.
François?
De quoi s'agit-il?
Bon, donc d'abord, c'est ça. En décembre, on a eu le lancement de la consultation. Il y a eu trois séances publiques une séance publique d'information et deux auditions des opinions. Et en fait, on a récolté énormément d'informations. Il y a eu en fait 244 réactions pour documenter les travaux de la commission, ce qui est très intéressant. Finalement, On a dressé 20 recommandations par la Ville de Montréal, naturellement issues de cette consultation-là. On s'est beaucoup inspiré des demandes du public.
Oui.
Et franchement, on peut dire que la Ville de Montréal a fait ses classes. On peut saluer
les recommandations sont assez proches des demandes qui avaient été faites.
Tout à fait.
Par les organismes, je dirais, les plus intéressés.
Les plus intéressés, comme vous dites, François. Et donc, pour chacune des recommandations, ce qui est quand même bien, parce qu'on clarifie de façon très précise chacune des recommandations. Donc, par exemple, si je vous parle de la recommandation, en fait, dans les vins, on en a quand même plusieurs qui cernent nos auditeurs, je dirais, plus particulièrement. En fait, toutes vont concerner tout le monde. Néanmoins, je dirais que la 12e, 13e et 14e recommandation...
Oh, la 12e, 13e et 14e, d'accord.
Oui, voilà. On peut cerner encore mieux nos besoins.
Qu'est-ce que ces recommandations... sur quoi ces recommandations portent?
Voilà. Alors, sur la mobilité active pour tous et toutes, considérant l'importance pour l'ensemble de la population montréalaise de bénéficier d'aménagements favorisant la mobilité active... L'importance des mesures de soutien d'accompagnement à la mobilité active des personnes ayant de la difficulté d'orientation spatiale, temporelle et le manque actuel de ressources à cet égard. Donc, je veux vraiment clarifier que la Ville de Montréal a vraiment regardé à tous les niveaux, donc considérant qu'il existe des outils de mobilité adaptés aux personnes handicapées, mais que le coût de ceux-ci limite à la fois leur accessibilité et leur utilisation. Donc, on sait que tout le monde n'est pas en Cadillac, hein? On s'éligne clairement.
Ce qui m'a frappé, entre autres, c'est le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, qui avait soumis, comme d'autres organismes, un mémoire au mois de mars.
Oui.
Le RAM émettait il n'y a pas longtemps un communiqué félicitant la ville, justement, de son ouverture d'esprit pour les besoins des personnes en situation de handicap visuel, entre autres.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il va y avoir de plus en plus de feux sonores, qui est quand même quelque chose de bien. Je vous donne quand même ma 12e, 13e et 14e recommandation.
Voilà. C'est comme les 10 commandements de Moïse.
Oui,
là,
voilà, hein? C'est fou un peu. Hein? Bon, la 12e, que la Ville de Montréal fasse la recension. En fait, c'est recension et non pas... C'est l'inspection, finalement, des bonnes pratiques favorisant la mobilité active des personnes aînées ou handicapés, afin d'offrir à la population montréalaise de l'accompagnement et des outils de mobilité partagés, adaptés. Donc, c'est bien. La 13e, qu'un guide d'aménagement pour l'accessibilité des rues piétonnes soit développé en collaboration avec les milieux de la recherche, les centres de réadaptation et les organismes de défense des droits des personnes handicapées et des personnes aînées. Donc, voilà, le RAM,
oui, ça, c'est important, c'est parce que souvent, quand des instances gouvernementales ont des intentions, souvent la consultation en amont n'y est pas, et c'est par la suite qu'on s'aperçoit qu'il y a eu des lacunes ou des choses n'ont pas été tout à fait mises en place telles qu'elles auraient pu l'être. Voilà, alors ça, cette intention de travailler en amont avec les acteurs du milieu, ça, c'est très, très important.
C'est très important, comme vous dites. Et la 14e, si je peux me permettre, que la Ville de Montréal inclut des personnes aînées et des personnes handicapées dans ses annonces et campagnes de sensibilisation au partage de la rue et de promotion de la mobilité active, notamment en encourageant l'utilisation des pistes cyclables par les personnes utilisant des aides à la mobilité motorisée. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je voulais le dire quand même.
J'espère que ça, je fais une parenthèse, on en parlera peut-être avec Mme Parent dans quelques minutes. Sur les pistes cyclables de Montréal, il y a vraiment un large
c'est
éventail.
C'est une course. Hein?
C'est parce qu'il y a des gens qui sont des cyclistes très, très sérieux.
Voilà.
Et puis, il y a des gens qui sont plus mollo hein, dans leur
trottineux.
Approche. Oui, voilà. Et de mettre tous ces gens-là sur à peu près 5 pieds de large d'asphalte dans les deux sens. C'est souvent le dimanche quand il fait beau, là, c'est... C'est périlleux.
C'est périlleux, puis je vous dirais, aux heures de pointe, c'est même dangereux.
Oui, tout à fait. Puis là, je comprends que tout le monde doit faire place à l'autre.
Tout à fait.
Et ça, c'est très difficile aussi à policer. Là. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à tous les trois coins de rue dire aux gens, gardez la droite. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais moi, ce qui m'a frappé dans les recommandations, Il y a entre autres beaucoup de questions de l'hiver. Il est question du déneigement, du dégagement des coins de rue, des plaques podotactiles, ainsi de suite. Alors, peut-être toutes ces intentions-là qui sont fort bien. Il y a 20 recommandations. Là.
C'est quand même beaucoup.
C'est du sérieux. Et on va avoir Mme Laurence Parent au bout du fil et j'aimerais qu'on puisse l'inclure dans notre conversation pour savoir c'est quoi la suite des choses. Bonjour, Mme Parent.
Bonjour.
Bonjour, Mme Parent. Vous êtes présidente de la consultation conseillère municipale Plateau Mont-Royal et militante de longue date avant votre entrée en politique active au point de vue municipal, militante active pour les droits des personnes en situation de handicap, pour la mobilité et l'accessibilité. Et ces recommandations-là sont des choses qui, pour vous, je suis sûr, allaient de soi.
Oui, mais en même temps, il y a toutes sortes de groupes, il y a toutes sortes d'expertises. Moi, bien honnêtement, je ne me prétends pas tout connaître. Et donc, j'avais quand même besoin, même si j'ai peut-être une longueur d'avance par rapport à certains Québécois qui ont moins d'expérience en accessibilité, j'ai quand même besoin de contacter, de consulter différents groupes, comme par exemple, moi, je ne suis pas une personne, je n'ai pas un handicap visuel. Donc, c'est important là, d'avoir les perspectives de différents groupes. Donc, ça allait de soi, oui puis non, dans le sens où l'accessibilité universelle, c'est un large éventail, il y a plusieurs pratiques. C'est vraiment un domaine qui est assez fascinant et qui demande une expertise et qui est toujours en évolution aussi.
Quand on lit les recommandations, on sent vraiment de la... pour faire écho à ce que le RAM... émettait comme commentaire, comme réaction au dépôt des recommandations, on semble vraiment une volonté de la Ville d'inclure les bonnes pratiques, si je peux dire, en mode d'accessibilité puis de mobilité, de tout azimut. Autant il est question des personnes à mobilité réduite que la déficience visuelle, les aînés, ainsi de suite. Alors, les recommandations sont très nombreuses. Comment est-ce que vous allez être capable de faire des priorités? Parce que chaque jour, il y a un pas à faire ou il y a un projet à mettre de l'avant. Comment vous allez pouvoir tout réaliser en même temps, de front, ça me semble beaucoup. Ah, je pense qu'on a un petit problème audio.
Oui, on vous a.
Ah, ben ça va bien, merci. Allez-y, Mme Parent.
Ah, vous m'avez...
On vous a perdu pendant quelques secondes.
Ah, je suis désolée. Bien, je mentionnais que j'étais heureuse de savoir que le RAM avait émis un communiqué. Je vais le chercher pour pouvoir...
Oui, tout à fait. Ils se réjouissent que...
Les recommandations.
Essentiellement, oui, ouais. Tout à fait. Les recommandations qu'ils avaient émises se retrouvent dans le document de la Ville. Là. Ils en sont fort heureux, semble-t-il.
Bien, je suis bien heureuse qu'il soit heureux. Sinon, pour répondre à votre question, en fait, ce sont des recommandations de la commission sur les travaux publics et le transport. Donc, il y a une petite distinction à faire. Donc, bien entendu, c'est une commission de la Ville de Montréal, mais ce n'est pas la Ville de Montréal.
C'est pas l'administration publique. En fait, ce n'est pas la partie politique qui est en cause, c'est plutôt...
Mais en fait, la commission est composée exclusivement d'élus, oui. D'élus de différents partis politiques. Donc, évidemment, nous sommes un organe de la Ville, mais il y a une petite distinction à faire. Donc, ce sont des recommandations que nous avons adoptées à l'unanimité, que nous déposons. Le rapport complet, donc un rapport encore plus étoffé, que j'ai hâte là, qu'il soit déposé publiquement parce qu'on a également intégré beaucoup la perspective, l'expérience des personnes qui ont participé. Donc, c'est très intéressant. Il va être déposé au conseil municipal le 12 juin prochain.
OK.
Ouais. Et ensuite de ça, le comité exécutif de la Ville de Montréal a environ 6 mois pour répondre à nos recommandations. Donc, de dire de quelle façon est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ces recommandations-là. Donc là, il y a une autre étape très, très importante, mais c'est sûr qu'en faisant les recommandations, vous dites qu'il y en a beaucoup. Moi, il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'il n'y en avait pas assez.
D'accord, ma fête.
Oui. Donc ensuite, au niveau de la priorisation, bien honnêtement, ben là, c'est autour de mes collègues ensuite qui vont faire ce travail-là et ensuite de ça au service de l'urbanisme et de la mobilité qui devra mettre en œuvre ce que le comité exécutif recommandera.
D'accord. Parce qu'une des premières choses, la première recommandation, c'est que la Ville alloue des ressources supplémentaires afin de consolider au sein du service de l'urbanisme et de la mobilité une équipe dédiée à l'accessibilité universelle. Mm-hmm. Alors, d'entrée de jeu, la première recommandation, c'est de mettre en place justement une structure permanente qui va être un peu, qui va orchestrer tout ça.
Oui, ben en gros là, c'est qu'on s'est rendu compte évidemment de l'ampleur du travail, que ce soit les projets qui sont réalisés à la Ville de Montréal en arrondissement. Il y a un grand besoin de développement de l'expertise à l'interne. Les projets sont nombreux. Donc pour nous, c'est important d'avoir une première recommandation qu'on estimait structurante. Donc
oui.
De s'assurer qu'on a les ressources appropriées pour mettre en œuvre les changements nécessaires.
Exact. Parce qu'une autre chose qui est touchée à l'intérieur des recommandations, c'est d'essayer de regrouper les informations quant aux meilleures pratiques en accessibilité de telle manière que les nombreux acteurs impliqués dans un projet puissent s'y référer. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui existent, mais en même temps, elle est un peu éparpillée.
Mm-hmm. Tout à fait. Ça, c'est important parce que dans un projet d'aménagement, il y a plusieurs personnes impliquées, plusieurs instances impliquées. Parfois, ça peut être même une entreprise de construction. Donc, évidemment, là, toute l'information que nous avons, nous devons la diffuser puis la rendre accessible à notre avis la meilleure façon possible.
Bien, évidemment, la décision va être lourde pour le comité exécutif. Parce qu'il y a toujours une question d'argent hein, là-dedans, puis d'intégration si je peux dire, au budget déjà existant. Mais on peut penser que la Ville ne peut pas reculer avec une telle unanimité autour des recommandations. On voit mal comment le comité exécutif ne peut pas mettre en œuvre, une plus grande accessibilité pour les Montréalais, Montréalaises, là. Le chantier, c'est parti, là. La roue a commencé à tourner.
Ben, je pense qu'on a des belles propositions pour la Ville. Donc, c'est sûr que nous, en tant que membres de la commission, on espère avoir des suites les plus positives possibles. En même temps, c'est toujours des choix. Parfois, on prend des décisions difficiles, mais bien honnêtement, je pense qu'on a des belles propositions. Là.
Oui, d'après vous, Madame Parent, compte tenu donc ce grand pas-là est fait, on a clarifié les besoins, on sait maintenant où on doit aller. L'exécution de tout ça, là, si on est réaliste, parce que de la façon que vous parlez, il semble y avoir plusieurs niveaux avant que l'exécution se fasse au bout du compte. D'après vous, de façon réaliste, quelle que soit l'une des recommandations, si on en prend simplement une, est-ce que vous avez une idée, ne serait-ce qu'approximative, combien de temps ça peut prendre avant que ce soit réalisé, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, là, dans votre secteur à vous, finalement?
Ben, moi, ce qu'on me dit, il y a différentes propositions. Il y en a des plus simples, des plus compliquées, bien
tout
évidemment.
Oui.
C'est un peu difficile pour moi de me prononcer sur les plus compliquées, notamment parce que c'est mon premier mandat en politique.
Oui, je comprends.
Mais en même temps, certaines propositions, on m'a déjà dit que certains, parce que les recommandations, elles sont déjà publiques, elles ont été déposées. Donc, on m'a déjà dit qu'elles avaient attiré l'attention de certains arrondissements, de certains services qui les ont déjà consultés. Donc, il y a possiblement déjà des choses qui peuvent être mises en place dès maintenant, du moins qui peuvent inspirer. Puis ensuite, pour les changements plus complexes, comme je vous dis, le comité exécutif, c'est dans un délai de 6 mois. Il est impossible pour moi de présumer le moment où la réponse sera donnée. Donc, ça peut nous mener dans le temps des fêtes et ensuite de lancer le tout dans la machine. C'est sûr que plus les changements sont complexes, plus parfois ça peut prendre le temps. Mais je ne suis pas en mesure de vous donner un moment exact.
Non. C'est bon.
Je pense que s'il y a une saison qui va être un premier test, c'est l'hiver, parce que dans les recommandations, il est question de déneigement. puis de dégager les coins, les endroits stratégiques, les arrêts bus, les coins de rue, ainsi de suite. Et déjà là, c'est pas quelque chose, il ne s'agit pas de construire quelque chose, il s'agit de déneiger. Alors déjà, cet aspect-là, s'il est mis en place, là, on le sait, le déneigement et l'accessibilité à Montréal, parfois, là, c'est ça se contredit et c'est difficile de l'appliquer. Alors, cette recommandation-là au sujet de faire des efforts ou de prioriser le déneigement des endroits critiques là, pour la mobilité, ça déjà, ça va être beaucoup. Et ça ne demande pas, ça demande pas un trop gros budget non plus. Alors ça va être bien de voir qu'il y a une volonté de ce côté-là. Ben, il nous reste qu'à vous remercier, les élus de la ville de Montréal.
D'avoir... Je vous remercie à vous d'avoir suivi les travaux de la commission, d'avoir informé vos auditeurs et vos auditrices. Puis le rapport complet va être disponible au public à partir du 12 juin. C'est vraiment une lecture intéressante.
Oui, tout à fait. Et puis, ben, on verra après ça l'automne prochain avec le comité exécutif ce qui en sortira. Puis on va continuer à suivre. Il n'y a rien comme être invité à table pour après ça être intéressé de voir qu'est-ce qui est servi.
Alors,
ben, je vous remercie beaucoup, Mme Parent.
Bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Monsieur Tessier, vous allez remporter un prix pour la bonne musique. Nous avons avec nous Mme Sandrine Cabana de Gagny. Bonjour, madame. Comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Ça va bien. Vous êtes directrice générale de Piéton Québec. Puis, moi, j'apprécie beaucoup le fait qu'on vous parlez davantage sur la place publique depuis un an que peut-être dans le passé. Malheureusement, c'est parce que les piétons ne gagnent pas la guerre de traverser la rue en ce moment-là. Mais en même temps, ben, c'est peut-être ça signale un changement du discours public où on se soucie un peu plus des piétons. Alors, on est heureux de vous avoir à nouveau à notre antenne. Et aujourd'hui, on voudrait avoir un peu vos réactions suite aux recommandations qui ont été déposées par au final de la consultation publique qui a eu à Montréal pour la mobilité et l'accessibilité universelle. Je sais que Piéton Québec a déposé un mémoire.
Oui, tout à fait. Oui, bien, en fait, on a lu le rapport des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux publics. On est contente de certains éléments. Puis, on trouve que certains éléments, on aurait pu aller un petit peu plus loin dans les détails. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je rentre.
Ah oui, on est là pour ça. On veut vous entendre.
Ben en fait, c'est ça, il y a plusieurs éléments vraiment intéressants là, qui ont été mis de l'avant dans le rapport de la commission, notamment l'idée là d'évaluer, d'allonger le temps de traversée de la rue. On sait que plusieurs piétons ne peuvent pas en ce moment terminer la traversée de la rue sur le feu vert ou le feu piéton parce que le temps alloué n'est pas suffisant là pour certaines personnes qui peuvent marcher plus lentement ou qui se circulent à mobilité réduite, par exemple, de traverser vraiment en un temps là, la rue. Donc on regarde là la question d'évaluer le d'allonger ce temps de traversée-là, mais aussi d'aménager, par exemple, des îlots-refuges au centre de la traversée qui permettraient vraiment de donner à tout le monde le temps de soit traverser au complet en sécurité ou du moins de se retrouver au milieu de la rue en sécurité, mm-hmm. là, plutôt que d'être au centre et d'être en danger.
Ouais, d'être debout sur la ligne jaune, là.
C'est voilà. Exactement. Donc, par l'aménagement d'un îlot, ben là, on permet quand même de s'arrêter de façon sécuritaire là, au centre. Donc, ça, c'est une recommandation qui a été retenue, qui nous apparaît vraiment pertinente. On va voir bon comment elle va être appliquée dans les prochaines actions. Et sinon, on a quand même beaucoup abordé la question de l'hivernalité dans le rapport. Puis ça, on est très content de voir ça parce que c'est bien beau d'aménager des rues pour qu'elles soient accessibles et sécuritaires en été, mais encore faut-il que ce soit possible et sécuritaire de se déplacer aussi en hiver. On a quand même un long hiver à Montréal. Puis on sait que les enjeux de déneigement là, peuvent apporter beaucoup d'obstacles là, au déplacement de tous les piétons, mais particulièrement des piétons qui sont à mobilité réduite ou qui ont une déficience visuelle, par exemple. Donc c'est vraiment un point qui est important. Donc on a avancé l'idée d'avoir une personne qui détient une expertise en accessibilité universelle sur le comité permanent sur le déneigement, ce qui nous apparaît une très bonne idée. Puis aussi de renforcer là, les principes de l'accessibilité universelle, notamment le parcours sans obstacles lors des opérations de déblaiement, d'épandage, d'enlèvement de la neige. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que la ville de Montréal a quand même une grande expertise en déneigement. Hein.
Exact, on est, tout à fait. On est bon. Une longue expérience.
Oui, c'est ça. Puis on est quand même bon là, en déneigement, mais par contre, le diable est souvent dans les détails. Hein. Puis ce qu'on voit par rapport aux piétons, c'est que, par exemple, l'opération de déneigement peut être très bien faite, mais après, le lendemain, ben les gens commencent à déneiger leur voiture, puis là, ils mettent de la neige sur le trottoir.
Oui, ou leur petit trottoir qui les amène jusqu'à la porte d'entrée.
Où on a des commerces qui vont déneiger le stationnement à proximité du commerce, puis là, ils vont créer un andain de neige sur le trottoir. Donc, c'est souvent ces petits détails-là de deuxième passage à Saint-Niette qui va vraiment permettre aux piétons de circuler. Pouvoir circuler.
Parce que ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont toujours piétonnes. Hein? Quelqu'un qui a une auto est piéton de temps en temps. Quelqu'un qui n'a pas d'auto est piéton tout le temps.
Oui, tout à fait.
Il y avait une des recommandations de Piéton Québec qui, moi, m'a surprise, c'était faciliter la traversée des rues hors intersection pour l'ensemble des piétons. Et moi, j'ai comme toujours appris qu'il fallait traverser au coin de la rue.
Oui, tout à fait. C'est mieux de traverser au coin de la rue parce que c'est là où on aménage une traversée sécuritaire. Mais parfois, on a des îlots à Montréal qui sont très grands. Donc, la distance entre deux intersections peut être assez grande. Puis pour certaines personnes, ça peut être un détour qui va complètement décourager là, le fait parce que c'est trop long de se rendre à l'intersection. Oui. Et ça va faire en sorte que certains piétons vont traverser en fait entre deux intersections, mais à un endroit qui n'est pas sécurisé nécessairement.
Okay.
On le voit par exemple chez plusieurs personnes aînées. On a vu des collisions mortelles avec plusieurs personnes aînées qui traversaient entre deux intersections, puis on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont traversé là. Et c'est probablement parce que la distance à parcourir pour aller à l'intersection
était décourageante.
Oui. C'est ça, exactement. Donc, ça demande quand même une grande force physique hein, de se déplacer oui. à pied. Donc, nous, l'idée, c'était pas d'encourager les gens à traverser n'importe où, mais plutôt d'aménager des traversées sécuritaires.
Oui, comme des passages piétonniers qui coupent les distances en deux.
Voilà. C'est ça. Ouais. On peut penser, par exemple, à ce qu'ils ont fait comme travaux, ce que la ville a fait comme travaux sur la rue Saint-Denis quand ils ont aménagé le rêve. Bien, ils ont ajouté des traversées à mi-lot pour les piétons au centre là, entre les deux intersections. Donc, ils sont venus vraiment réduire la largeur de la chaussée à cet endroit-là. Ils ont rajouté un mi-lot central au centre. Puis, donc, c'est un aménagement qui est très sécuritaire pour traverser la rue comme piéton. Et ça permet, en fait, de venir canaliser les dépassements piétons à cet endroit-là plutôt que les piétons traversent de façon un peu partout tout
oui,
au long de la rue
oui,
parce que
oui,
le détour est trop long de se rendre à l'intérieur.
Surtout dans des rues commerçantes. Madame Degani, merci. Comme vous, on pense bien que on est heureux de voir que la ville a une belle ouverture d'esprit, mais comme disent les anglo-saxons, the devil is in the detail. Hein?
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est exact.
Alors, on va continuer à suivre ça ensemble et on va se reparler certainement à ce sujet.
Bien, merci de l'invitation. Bonne
merci.
Journée.
Merci à vous.
Avec François Beauregard.
Rebonjour, rebonjour. Il est maintenant 13h et à 13h, c'est la revue de presse avec Esther Hardy. Bonjour.
Bonjour, François. Rebonjour, oui.
Ben oui, on est ensemble déjà depuis une demi-heure pour parler de la mobilité, de l'accessibilité universelle à Montréal.
À Montréal.
Mais maintenant, voilà. on retournons à nos bonnes vieilles habitudes de revue
voilà.
de presse et on commence en France.
Oui, on commence en France. En fait, des Français mettent au point une invention pour donner plus d'autonomie aux personnes vivant avec un handicap visuel. Donc, ça devrait arriver sur le marché français d'ici 2024. En fait, naturellement, c'est une start-up, comme vous me dites.
Ah oui, c'est une start-up. Hein, oui, tout à fait. C'est, mais de quoi s'agit-il? C'est quoi ce bidule?
En fait, c'est une... attendez. Un dispositif permettant aux aveugles et non-voyants de se déplacer dans la rue et emprunter des transports en commun sans danger et sans aide d'une tierce personne.
Oh.
C'est composé de deux éléments. Une caméra qui est fixée à une branche de lunettes, donc ça nous prend naturellement des lunettes, qui est aussi reliée à une ceinture lombaire. Donc, les images filmées, parce qu'en fait la caméra filme des images, sont envoyées à la ceinture qui, elle, en fait... projette tout ça dans le dos de l'utilisateur grâce à des petits picots.
Des petits picots. Alors, on a comme une sorte de gaine.
Oui, hein, une ceinture.
Qui est collée sur, le bas du dos. Et cette gaine-là nous picote.
Oui, c'est pas précisé si c'est un gilet complet finalement, parce que je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être picoté, mais bon. Les informations dessinées sur le corps sont captées très rapidement par le cerveau qui peut ainsi avoir une perception plus précise de l'environnement. C'est comme si on dessinait dans votre dos ce que vous avez devant vous afin que vous compreniez l'image du...
D'accord. Alors, s'il y a un obstacle qui est à ma gauche, je vais ressentir un picotement du côté gauche. Là, ça va me dire, attention, il y a un arbre ou il y a le coin d'un mur.
Plus précisément. Puis, peut-être c'est dessiné avec les petits picots, c'est ça.
Ah,
ça, c'est pas
plus
tout
je
tout
me déplace
clair,
à droite, mais... plus le picotement s'estompe, parce que ça veut dire que finalement la voie est libre.
Voilà.
D'accord.
C'est très intéressant quand même. Bon, c'est pas donné. C'est 3 000 €, soit 4 311 $ canadiens.
Ça, c'est le taux de change d'hier, ça.
Ouais.
Mais voilà. Mais donc, il est possible que cette start-up française, on va espérer que le produit se raffine ou que. Il se démocratise, enfin, en termes de prix. Alors, donc, on parle d'une perception tactile dans le dos qui est le reflet de l'image, enfin, de ce qui est devant nous.
Qui est captée par la caméra des lunettes, finalement. Ouh. Mais ça a été testé déjà, hein. C'est
d'accord,
quand même pas
d'accord.
140 personnes âgées de 10 à 80 ans l'ont testé.
Ah, d'accord.
C'était concluant.
Bon,
donc, on faut dire qu'ils ont commencé leur test en 2020. Hein? Ça fait quand même trois ans. Là,
c'est sérieux.
Qui expérimentent ça, puis qui travaillent fort, puis Ils ont vérifié, en fait, autant des enfants de 10 ans que, comme je vous disais, des personnes de 80 ans l'ont testé. Puis ça leur prend à peu près 5 minutes pour comprendre, en fait, à la compagnie de leur expliquer le fonctionnement et 2 heures pour la bonne prise en main.
Oui, parce se faire une idée un peu ça, de comment l'environnement est traduit avec les petits picots.
C'est ça. La caméra est très légère. La ceinture mesure à peu près 15 cm par 15 cm.
Donc, c'est 6 pouces par 6 pouces. C'est juste une petite plaque, là. Voilà, c'est pas tout un gilet.
Puis c'est adapté aux enfants comme aux adultes. Là. La caméra s'adapte à toutes les branches de lunettes. Oui, la ceinture peut être portée toute la journée. Donc, c'est sans problème. On va en savoir plus éventuellement, comme vous
le
disiez.
À suivre.
C'est tout quand même intéressant.
Mais la technologie accessible en France, ça continue?
Oui, ça continue. D'ailleurs, à Paris, le Philharmonie de Paris, ils ont maintenant un nouveau dispositif pour les personnes malentendantes. Donc, la technologie inclusive sera proposée aux personnes sourdes et malentendantes de la Philharmonie de Paris pour les saisons 2023-2024. Donc, on parle de septembre prochain, hein? En fait, on a développé par la société française SoundX, encore une fois, un petit accent anglais. Le dispositif est relié à une intelligence artificielle qui transforme les sons en vibrations ressenties par le corps. Ça, c'est encore plus pointu.
Oh là là! Non, c'est pas les picots, là. C'est devient des vibrations ressenties par le corps.
On analyse l'intégralité du spectre audio, en fait, de 0 à 20 000 Hz. On prend ces fréquences qui sont relativement hautes dans le spectre audio et on les retranscrit dans une très grande précision avec un spectre vibrationnel qui est dans les basses. Donc, tout ça est ramené dans les basses, mais ça fait des variations qui fait que faudrait l'essayer.
Donc, ça permet à une personne malentendante de faire l'expérience de la musique, mais d'une autre façon, par une vibration harmonieuse, rythmée, ainsi de suite. Alors, c'est de la musique qui est devenue autre chose.
Tout à fait raffinée des vibrations. En fait, ça a été testé et amélioré avec les élèves de l'Institut national des jeunes sourds à Paris. L'appareil permettra de mieux ressentir le rythme, l'intensité et les émotions de la musique. Oh. Les émotions aussi.
Oui,
là.
ça c'est... Pour quelqu'un qui est habitué à écouter de la musique, de penser que les émotions puissent être transmises autrement, c'est intéressant. Ça donne presque le goût de l'essayer tout en n'étant pas nécessairement le public cible.
Ah non, mais vraiment, puis c'est offert gratuitement en septembre.
On va à Paris.
On s'en va à Paris, on va l'essayer.
On prend des billets pour le Philharmonie, puis on lève la main pour avoir droit à cette technologie-là, le SoundX.
Oui, il y en aura à peu près une demi-douzaine là, par représentation.
Il ne faut pas l'enlever aux gens qui en ont...
Non.
Qui veulent, qui sont, je dirais...
Dans un an, on l'essaie.
De bonne foi, on verra.
Oui, puis en fait, on va encore plus loin. Vous connaissez Disney, j'imagine.
Ah, qui ne connaît pas Disney?
Hein, les beaux films de Disney. Bien, Disney a décidé d'être plus inclusif. Et pour la première fois, un acteur trisomique fait partie des films de Disney. Donc, Disney s'est engagé à avoir un peu plus d'inclusion. Donc, voilà, Noah Matthews Matofsky est à l'affiche de Peter Pan et Wendy.
Ah, ben oui, Peter Pan. On connaît l'histoire de Peter Pan, le jeune garçon qui refuse de vieillir et qui rencontre son pire ennemi, là, le Capitaine Crochet.
Le Capitaine Crochet. Et qui va incarner le Capitaine Crochet? Jude Law.
Ah non, c'est
ce
pas
n'est
vrai.
Pas rien. Hey, écoutez, non, mais je me mets à la place de Noah, là, le Noah Matthews Natowski, qui a ce privilège-là, là, en fait. Sûrement qu'il est très talentueux.
Il a un privilège, mais il doit être bon aussi.
Oui, définitivement.
Il n'a pas gagné un concours qui veut être dans
c'est
le film.
C'est une audition qui a passé, d'ailleurs. Ben oui. Parlons-en. C'est une agence de mannequins où tous les mannequins sont handicapés. Ça s'appelle ZBD. C'est en Angleterre. C'est des Britanniques, en fait, qui ont fait...
Oh! Mais on en a parlé il y a quelques semaines.
On en a déjà parlé,
Vogue UK, là,
oui, voilà.
qui avait fait une édition spéciale avec des cinq femmes avec des situation d'handicap.
Voilà.
Pour recadrer la mode, oui, tout à fait, on avait parlé de ça.
Donc, ils sont très innovateurs, puis en fait, Disney a embarqué dans le bal, c'est merveilleux.
Oui, parce que c'est très largement diffusé, Disney, là, oui. Ça va faire le tour de la planète. Ah, alors, d'avoir un jeune acteur, un jeune comédien qui vit avec une trisomie 21, ben là, ça va faire... c'est bien, ça. C'est une très belle vitrine, là.
Très talentueux. C'est oui. vraiment merveilleux. En fait, il campe le rôle de Slightly, le chef de la tribu des enfants
oui,
perdus.
Oui, des enfants qui sont sur voilà. une île ou quelque chose comme ça, qui oui. sont eux-mêmes toujours en guerre avec le capitaine Crochet, d'ailleurs.
Ouais.
Le capitaine Crochet, ça me fait penser à une chanson d'Eduardo Benato, qui fait une chanson sur le capitaine Crochet, là, le capitaine Uccino. Alors, oui, là, c'est. Je suis en train de jouer des tours à Mathieu, mais on réglera ça tout à l'heure. Voilà.
Donc, en fait, c'est ça. Il est donc le chef des enfants perdus, ce qui est un. Disons-le, c'est quand même un rôle de leader là, dans
oui,
une
Oui, tout
production.
À fait, exactement. Oui,
donc,
oui c'est un rôle important parce qu'il y a une interaction entre ce personnage-là et Peter Pan. Là, c'est
Peter
pas,
Pan et le Capitaine Crochet. En fait, c'est le second du Capitaine Crochet, on pourrait dire.
Oui, bien, si on veut. Ouais. Enfin, alors, bien, bravo. C'est à suivre. Ouais. Toujours dans le domaine des arts.
J'ai hâte de voir ça.
On parle de film. Oui.
Invincible été. C'est un film bouleversant sur la maladie de Charcot. En fait, c'est un documentaire qui a été fait par Stéphanie Pilanco, qui est à l'affiche présentement en France, en Belgique et au Luxembourg.
Ah, mais ça va peut-être passer ici, là.
Oui,
ça s'appelle Invincible été.
Invincible été. En fait, ça raconte l'histoire bouleversante d'Olivier Goy, un chef d'entreprise atteint de la maladie de Charcot. Et il sonne comme un véritable hymne à la vie. Donc,
il faut le dire, la maladie de Charcot est une dégénérescence du système nerveux. Qui est irréversible.
Incurable.
Éventuellement, malheureusement, là, l'espérance de vie est très courte. On parle de quelques années seulement parce que les muscles commencent à ne plus répondre. Et on parle d'un homme dans la force de l'âge, là, 46 ans, un battant dans le domaine de l'informatique, ainsi de suite. Là. Mais comment
oui,
il a pris
c'est
ça?
C'est un homme d'affaires.
Comme on dit, il y avait tout pour lui.
Oui, il y avait vraiment tout pour lui. Puis, en fait, ce qui est très édifiant dans son parcours, c'est qu'au lieu de, comment je pourrais dire, de tomber dans la dépression, dans le drame de l'événement, ben, au contraire, en fait, il a assumé tout ça. On dit qu'on le suit dans sa vie quotidienne, d'ailleurs. C'est,
d'accord.
En fait, c'est le film. On le voit à côté du sapin de Noël qui est filmé par son fils cadet Louis en conférence au sein d'une entreprise ou assis autour d'une table de café avec des amis. Ce qui nous saisit, en fait, quand on le regarde dans son témoignage, c'est que l'on voit un homme qui a accompli un chemin prodigieux.
Ouh là là! Rien de moins!
Rien de moins!
Mais c'est parce que c'est sûr que quelqu'un qui reçoit un diagnostic qui nous tombe dessus, là, comme celui d'une
tonne
maladie
de briques,
dégénérative
hein? Oui, voilà.
Incurable... avec une expérience de vie très courte, là, certains ne s'en remettent pas aussi facilement.
Non,
voilà.
Tout à fait. On voit que c'est un homme qui avait déjà une philosophie. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est sûr que la fin de son parcours est claire. Il sait exactement où il s'en va.
Oui.
Mais sa femme, lui... En fait, je trouve ça très beau. Sa femme a dit que c'est la première fois qu'on lui imposait quelque chose. D'habitude, c'était toujours lui qui était décisionnaire.
Oui.
C'est très intéressant.
Oui,
hein?
Oui, c'est intéressant parce qu'on aurait pu penser que dans une telle condition, il y a eu une révolte, un déni, une colère là, qui aurait pu s'exprimer par de la violence.
Tout à fait. Pour un homme d'action comme ça, on
exact,
peut l'imaginer.
Exact, oui.
Ben
alors, donc, le film « Invincible été », ben, on espère qu'il va être en salle quelque part
Québec,
ici
non,
ou
oui, c'est
disponible, je sais pas, en ligne ou quelque chose comme ça. Peut-être on devrait aller voir de temps en temps côté streaming. Là.
Ouais. Ben, moi, je dis ouvertement, je l'espère au cinéma Beaubien.
Ah,
ouais.
Voilà.
Ça serait un bon endroit pour voir ce
oui,
beau
oui,
film.
Oui, oui, oui. Ben, c'est un peu le genre du Beaubien de présenter des choses qui sont hors des grands centres de distribution. Tout à fait.
Tout à fait.
Alors, on espère que Simon Beaubien vous offre une paire de billets pour cette réclame.
Ce petit mot
voilà.
pour eux. Donc, on reste en France. On a beaucoup de nouvelles de la France aujourd'hui. Au niveau du chômage, une expérimentation veut faire changer le parcours des personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi. En fait, il faut dire qu'on en a beaucoup parlé, même à la dernière émission, c'est que la France fait énormément d'efforts pour intégrer les personnes vivant avec des handicaps dans tout le milieu professionnel.
Toutes les sphères, oui.
Néanmoins, c'est souvent des compagnies qui sont déjà aménagées pour l'adaptation, qui ont déjà...
une politique d'emploi ou
qui
sont actifs dans des domaines qui, je dirais, sont ceux où plus souvent on va trouver des emplois adaptés.
Exactement.
L'ambition, c'est d'être plus large que ça.
Oui, on ne veut plus cantonner les travailleurs handicapés dans des entreprises adaptées ou dans le secteur protégé, des établissements et services d'aide par le travail qui s'appelle ESAT. Donc, on veut une reconnaissance du statut de travailleur handicapé qui va s'appeler le RQTH. Donc, la personne va recevoir ça, ce RQTH-là, et à partir de ce moment-là, on va avoir un regroupement qui va les prendre en charge pour évaluer leurs besoins. En fait, le but est de parvenir à faire embaucher des personnes en situation de handicap par des entreprises ordinaires au lieu de les...
Au lieu d'avoir des entreprises adaptées, maintenant,
exactement,
ça va être les entreprises qui vont s'adapter au fur et à mesure de l'embauche. Si ce sont des candidats, candidates qui vivent une situation d'handicap. Alors, on veut élargir, on veut plus que ce soit, un ghetto d'entreprises adaptées.
Exactement,
mais que ça puisse être plus large.
Il faut le dire, certains secteurs ont de besoins criants de main-d'œuvre et ils sont prêts à s'ouvrir aux personnes handicapées. Donc, c'est le cas des industries et des métiers de la métallurgie. Le secteur sanitaire et social associatif, ils sont aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils sont très, très ouverts à tout ça.
Oui, oui, tout
donc,
à
ça,
fait.
Donc, ça va bien fonctionner.
À suivre. On a été témoins ce printemps de plusieurs initiatives du gouvernement français dans ce sens-là. Ils semblent vraiment
proactifs.
Sérieux.
Oui, tout à fait.
Bon, ben voilà. Est-ce qu'on va retourner à la maison après ça?
Peut-être un petit arrêt en Israël.
Ah, OK, d'accord.
En fait, Israël-Ukraine.
Ah, c'est ukraino-israélien.
Voilà. L'Israël expose son savoir-faire en Ukraine pour développer l'aide à la réadaptation. Comme on le sait, on en a déjà parlé aussi, il y a plusieurs organismes qui vont aider les Ukrainiens. Naturellement, compte tenu de la guerre, on a besoin de beaucoup de réadaptation. Donc, il y a eu un sommet. Le premier sommet ukraino-israélien consacré à la rééducation et à la réadaptation s'est ouvert mardi de la semaine dernière, le 30 mai, à Liev, apportant à l'Ukraine l'expérience d'Israël en matière de rétablissement physique et psychologique, alors que le pays continue naturellement de combattre les forces russes. Là,
la guerre n'est pas finie, loin de là, mais la guerre a comme conséquence une multiplication de personnes en situation d'handicap ou vivant de forts traumatismes. Hein? On parle souvent de d'autres enjeux, mais c'est ce qui est terrible avec la guerre, c'est ce qui reste derrière.
Tout à fait.
Israël a développé une expertise dans ce domaine-là.
Oui, et déjà, en fait, il y a quand même plusieurs soldats ukrainiens blessés qui ont commencé à arriver en Israël pour y être pris en charge.
D'accord.
Depuis septembre, en fait. Et des dizaines d'entre eux ont été soignés jusqu'à présent. Donc, Israël n'a pas donné à l'Ukraine les armes qu'il désirait, mais il lui donne l'aide au niveau de la santé, de la réadaptation.
Bon,
donc, c'est quand même bien.
Bravo. Voilà.
Bravo.
On fait une pause, on revient chez nous. Hein? C'est une grosse semaine ici au Québec.
Churma! Questo silenzio cose! Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave. Sono, non sono il capitano Uncino. E allora quando vi chiamo, lasciate tutto e correte, fate presto perché ti arriva tardi lo sbarco. col mio uncino lo dovrò scannare. Eccolo in vista, e lui con tutta la banda. Meglio che questa volta si arrenda. Non voglio prigionieri, mi basta solo un ostaggio. La ragione dalla vostra parte, ricordatevelo. Avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio. Sono o non sono il capitano Uncino, eh? E allora avanti col coro. Cantate tutti con me e ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato.
Per i pirati non siamo, contro il sistema lottiamo.
Le rock del capitaine Uccino. Ça demande quelques explications. Oui, voilà. Merci, Esther. Uccino, en italien, c'est crochet. Alors, c'est le rock du capitaine Crochet. Et les paroles sont vraiment amusantes. C'est de Eduardo Benato, un rocker italien qui fait carrière depuis 40 ans en Italie. Ça, c'est une chanson qui date du début des années 80. Et l'histoire, ce que ça raconte, en fait, le chœur qu'on entend, c'est l'équipage du capitaine Crochet qui en a vraiment soupé de l'obsession du capitaine Crochet avec Peter Pan, parce que ça finit toujours mal. Et eux, c'est un peu comme les pirates dans Astérix, là. Alors, essentiellement, ils disent au capitaine Uccino, là... décroche, là. Le capitaine Crochet, ouais, évidemment, décrocher, c'est autre chose. Enfin, bon, alors, longue histoire courte, les paroles sont amusantes, puis la musique est bonne, et voilà. Et tout à l'heure, je l'ai mentionné en onde, capitaine Uccino lançant un défi à Mathieu Tessier, notre excellent metteur en onde, et il a répondu, il a été à la hauteur. Alors, bravo, Mathieu, que dire de plus? Esther, nous revenons au Canada et c'est la semaine québécoise.
Des personnes vivant avec un handicap. On le vit présentement. En fait, ça a commencé le 1er juin jusqu'au 7.
Exact.
Et dont le thème principal, c'est « Dans un monde plus inclusif, je peux me réaliser ».
Exact. Oui, il y a toutes sortes d'événements cette semaine qui ont eu lieu partout au Québec.
Oui, c'est l'occasion de partager les bons coups que chacune des personnes qui vivent avec un handicap a réalisé. Donc, qu'ils soient individuels ou collectifs, ils comptent plus que vous ne l'imaginez. Donc, on vous invite, en fait, à les partager.
Et sur le site de l'OPHQ, il y a toutes sortes de choses. Mais on peut aussi parler de régions qui ont des initiatives.
Voilà. Donc, en fait, on peut souligner aussi que Rosalie Taillefer-Simard est naturellement le porte-étendard, le porte-parole, et que l'ambassadeur, c'est Luca Patuelli.
Oui, Crazy Leg.
Voilà, qu'on connaît mieux.
Alors, encore
de
un thème
Leg.
Italien, là. C'est ça aujourd'hui. Ben, c'est super. Et parce que, dans les initiatives qu'il y a eu, moi, j'ai relevé quelque chose, et là, vous n'étiez pas au courant, mais sur la Côte-Nord, la table de concertation des associations de personnes handicapées de la Côte-Nord, pour souligner la semaine des personnes handicapées, va mettre en ligne, un questionnaire qui, je pense, est tiré du site de l'OPHQ, qui est un jeu questionnaire de 15 questions qui a pour but de sensibiliser la population à la réalité des personnes handicapées, justement pour déboulonner des mythes parfois que la population en général peut tenir pour des vérités au sujet des personnes en situation de handicap. Alors ça, c'est le questionnaire a été réalisé par les organismes et les partenaires de la région travaillant avec des personnes ayant un handicap. Il permettra de tester les connaissances des gens sur le sujet. Alors, il sera possible d'accéder au jeu questionnaire toute la semaine sur la page web, encore une fois, de la table de concertation de l'Association de personnes handicapées de la Côte-Nord. La Côte-Nord, notre cœur est avec vous, là, parce qu'avec les incendies de forêt, c'est pas facile.
Oui, voilà, exactement. Donc, c'est très intéressant de se sensibiliser, en fait, à ce qui se passe réellement dessous souvent peu d'informations qu'on a si on ne connaît pas une personne qui vit avec un handicap.
C'est tout à fait juste. À l'autre bout du Québec, à Beauharnois?
Ah oui, Beauharnois se mobilise pour l'accessibilité universelle. En fait, c'est mercredi le 24 mai dernier, des élus, des employés municipaux et des organismes de Beauharnois et des environs se sont réunis pour participer à une activité de sensibilisation et d'information sur l'accessibilité pour tous. On veut vraiment organiser en fait la ville de Beauharnois pour rendre les lieux plus accessibles. Donc, la table de concertation des personnes handicapées de Beauharnois-Salaberry, du CIUS de Montérégie-Ouest, a organisé ça avec la ville de Beauharnois. Le but est vraiment de sensibiliser les participants à la réalité quotidienne des personnes en situation d'handicap. Donc, une marche exploratoire immersive a été organisée. Les participants ont pu expérimenter différentes limitations en utilisant des équipements tels que des lunettes altérant la vision et des fauteuils roulants. Oui, on veut vraiment se mettre dans la peau de ceux qui vivent avec un handicap.
Oui, puis peut-être à ce moment-là, ça amène les gens qui prennent des décisions à être plus sensibles
tout à fait
à la réalité. Côté de l'INCA, il y a toutes sortes d'activités qui sont offertes en juin, n'est-ce pas?
Oui, puis d'abord, en fait, on invite les adolescents à venir donner leur opinion pour bâtir un avenir à votre goût. Carrément.
Oh, ça, c'est quand, ça?
Le jeudi, le 8 juin.
Dans
donc,
3 jours?
Oui, voilà, de 19h à 20h, on peut venir partager. En fait, ça va durer seulement une heure.
Moi, j'ai 20h30 ici.
20h30, vous avez raison. J'ai sauté le petit 30.
Ben, y a
donc,
pas de
ça
problème.
Va être 1h30.
Voilà.
1h30. Donc, c'est soit par téléphone ou par Zoom, il n'y a aucun problème. Puis il y a même des cartes cadeaux qui d'une valeur de 10$ chez Tim Hortons qui seront distribuées aux participants. Une petite carotte.
Oui, oui. Mais en juin, il y a d'autres activités aussi. Il y a le groupe de soutien Harmonie visant à poursuivre votre adaptation à votre perte de vision. Ce sera les lundis 19, tous les lundis du 19 juin au 24 juillet, de 13h30 à 15h.
Oui, en fait, on avait déjà parlé du hub du INCA là, qui
oui,
se promène.
Sur la rue Parthenay, au 2085 ouais. Parthenay. D'ailleurs, le hub ou hub de l'INCA célèbre, je pense, c'est son 5e anniversaire. Mercredi, le 7 juin, il y a une porte ouverte au 2085 rue Parthenay. On célèbre, l'INCA célèbre 5 ans de son hub. Et ça, on invite tous les gens à y être. Donc, c'est mercredi. Pour nous, déjà, Esther, ça se termine comme ça. Il est 13h28, tout près. Merci beaucoup, Esther.
Merci,
François. Merci, Claire Guérin à la recherche. Et Mathieu Tessier, qui vraiment, aujourd'hui, là, m'a fait un très beau cadeau en faisant jouer de la musique italienne. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde.